Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite. Salut, c'est Guillaume. C'est la période estivale, donc je vais en profiter pour faire une petite pause dans la production du format habituel de Course Épique pendant 2 petites semaines. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochain épisode original le mercredi 17 août, avec, comme le veut la tradition, un extrait de l'épisode dès le lundi précédent, le 15 août donc. Mais je ne vais bien sûr pas vous laisser seul au bord du chemin pendant ces 2 semaines, je vous propose donc aujourd'hui de découvrir un format revisité d'un épisode déjà réalisé. En gros, l'idée est de vous proposer une version en immersion dans la course épique de mon invité. C'est un format plus court, dans lequel vous ne m'entendrez pas, mais comme vous vous en doutez, je ne suis jamais très loin, et dans lequel nous avons ajouté pas mal d'habillage sonore. C'est une tentative éditoriale que j'avais envie de vous proposer depuis très longtemps, donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou Facebook ou par Pigeon Voyageur pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour ce premier épisode au format récit, je vous propose de partir à la découverte de l'incroyable défi de l'aventurier explorateur au très grand cœur, Rémi Camus. Rémi a réalisé des défis sportifs et d'aventures incontestablement hors du commun. Il a notamment effectué un tour de France à la nage en 2018, parcouru le Mékong du Tibet au Vietnam en hydrospeed pendant 6 mois, ou encore traversé l'Australie en courant, seul et sans assistance. C'est cette dernière aventure que Rémi partage avec nous aujourd'hui dans ce format récit. Une aventure de 5400 km, riche en surprises, dans l'outback australien, qui a également été pour lui l'occasion de collecter des fonds pour l'association française du syndrome de Love. Mais je ne vous en dis pas plus. Rémi va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique au format récit.
Mais vous voulez faire quoi en fait? Traverser l'Australie en courant, tout seul, sans assistance, et voilà, porter le nom de l'association et essayer de collecter de l'argent pour vous. Et en fait, c'est ok. Et il comprenait pas. Il fait, c'est pas possible qu'une personne puisse partir en Australie, courir pour amener de l'argent pour nous, comme ça, alors qu'il nous connaît même pas. Tant que le mur est loin devant, bah tu te dis ouais, on a le temps. Puis un jour le mur en fait, bah, il est juste devant ton nez, et là tu te dis merde, mais là faut y aller quoi en fait. Maintenant c'est en fait il y a plus de chemin, il y a pas de ça sera demain, ça sera dans une heure, ça sera dans 10 minutes. C'est bah, en fait c'est maintenant. La décision que tu vas prendre fera que l'aventure se lance tout de suite. Et Paul qui était juste à côté de moi voit à travers mon regard que ouais, je suis un peu perdu, je sais pas comment prendre cette décision, et il me dit
you know what mate, I would just sit down there and when you're ready just raise your hand.
Il me dit bah je me mets là-bas, je m'assois sur le trottoir avec son petit chien et quand t'es prêt tu lèves la main et puis bah c'est parti. Et donc je me retrouve sur le trottoir accroché avec ma remorque, et en fait ce que je fais c'est que je fais un gros flashback comme si on prenait les cassettes. Alors pour les jeunes qui nous écouteront vous n'allez pas savoir ce que c'est, mais pour les plus anciens on mettait 2 crayons à l'intérieur pour rembobiner la cassette, et bien c'est un peu ça, je rembobine la cassette mais à fond la caisse, et en fait ça me refait tout le fil de mon aventure du jour où je l'ai dit à ma maman en descendant les escaliers, j'ai une idée, je vais traverser un pays en courant, à comment construire une remorque, quel pays, où je vais aller, les aborigènes, comment on obtient les autorisations, la préparation, le matériel, etc., 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 jusqu'à arriver au jour J et me dire bah, t'es prêt. Je sais pas si t'auras pensé à tout, mais en tout cas, t'as tout mis en œuvre de ce que tu imaginais de ce projet, tu l'as réalisé. Maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est de mettre un pas devant l'autre. Et j'ai eu, je pourrais pas te dire si c'est vrai ou pas, mais j'en suis presque persuadé. J'ai eu une pensée particulière pour ma maman et mon papa de me dire « j'y suis et je vous promets, je rentre vivant, vous inquiétez pas, je fais pas le con, le but c'est pas de rentrer dans une petite boîte, je pense à vous, vous inquiétez pas, votre fils il va bien ». Et une fois que j'ai fait ce petit fil dans ma tête, je m'étais plus ou moins rassuré. Je me suis dit, voilà, c'est sûr que la préparation, elle n'est pas parfaite à 100%. D'ailleurs, il n'y a aucun projet qui est parfait à 100%. Ça n'existe pas. Il y a forcément des problématiques, des choses auxquelles on n'a pas pensé, et puis des aléas. Et c'est ça qui fait que l'aventure est intéressante. Et du coup, je me suis posé, j'ai tourné la tête, j'ai regardé Paul et je lui ai dit, Paul, see you, mate. Et j'ai fait le premier pas. Et ça a été mais une libération. T'imagines même pas ce moment où... C'est vrai que le mot être pragmatique et opportuniste est très important. Quand on est en statique, on peut se permettre de chasser, de cueillir, etc., de poser des pièges. Là, quand on fait de l'aventure en itinérance, seul, à faire un effort important, eh bien, il faut saisir chaque occasion. Donc moi, je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi, s'il y avait des serpents, des lézards, même un kangourou qui était éclaté, j'allais récupérer ce qu'il y avait dessus parce que j'en avais besoin, je ne savais pas ce qui allait se passer sur la suite. Donc c'était un mix entre de l'opportunisme, tu vois, de tout ce qu'il y avait autour de moi. Et puis quand j'arrivais dans des toutes petites bourgades ou des toutes petites villes, eh bien j'essayais de faire le plein avec des choses assez basiques. Alors je crois que mon repas quotidien, c'était de la semoule avec des petits pois déshydratés que je rajoutais comme ça dedans. L'avantage de la semoule, c'est qu'il suffit juste de mettre un petit peu d'eau, mélanger avec quelques épices, et tu laisses la boîte fermée hermétiquement en plein cagnard, et en bout de 10 minutes, c'est cuit, c'est prêt, tu peux manger. Donc c'était un mélange de tout ça, et ça m'a permis d'avancer, certes pas forcément comme je le souhaitais, parce que j'ai quand même perdu une douzaine de kilos sur l'Australie, ça a été vraiment très très intense. Je dirais pas que j'ai eu des carences, parce que j'ai toujours réussi à avancer et à atteindre mon objectif. Je chargeais beaucoup plus mon eau, je mettais beaucoup de sel à l'intérieur de mon eau pour compenser avec les pertes des sels minéraux que je pouvais avoir. Je mettais un petit peu de sucre également, mais ça m'a pas trop perturbé. La peur est omniprésente et elle m'a toujours aidé dans mes choix. En Australie, par exemple, lorsque j'ai dû aller chasser un brown snake, donc c'est l'un des serpents les plus dangereux sur Terre. Quand tu dois aller chasser un serpent, moi je partais toujours au principe où tous les serpents sont mortels. Comme ça au moins tu sais, c'est pas ah oui mais il avait les écailles comme ça, on m'a dit que non, on s'en fout ça. Tu vois, quand ils mordent, on s'en fout, ils peuvent être mortels. Mais là, entre le voir sur un papier, tu sais, ok c'est comme ça, j'ai compris le truc, et le voir en vrai et qu'il bouge, et tu te dis faut que je l'attrape pour le manger, c'est pas la même chose. Et en fait la peur t'envahit. Et en fait, c'est une peur, c'est une bonne peur, parce qu'elle est là pour te rappeler où est-ce que tu es, ce que tu fais, que s'il y a un risque à prendre, tu es au courant de ce que tu fais, et surtout, tu es au courant que si tu te fais mordre, les secours vont mettre un certain temps à arriver, et que au mieux, tu vas perdre la jambe ou le bras, parce qu'ils vont te le sectionner, parce que ça sera complètement pourri, si tu veux, ou alors tu y laisses la vie. Donc, la peur est là et elle est présente et on en a besoin pour justement se poser les bonnes questions. Alors pour moi, les journées, elles se répètent pas du tout, parce qu'elles se répètent sur le fait que tu te lèves, etc. Et en fait, ça devient mécanique et ça devient agréable, parce que t'as pas besoin de penser à tout ce que tu dois faire. Ok, je me lève, je rends... Si tu veux, les premiers jours, plier la tente, ranger, pacter, partir, il me fallait 30-35 minutes pour faire tout ça, et après le temps de manger. Avec le temps, Je prenais 5 minutes pour tout plier, tout était rangé. Et manger, je mangeais pas du tout. En fait, je partais et je commençais à courir tout de suite pour me lancer dans le truc, dans la dynamique. Et après avoir couru une heure et demie, je m'arrêtais pour manger. Mais j'avais déjà pris une dynamique. Et ça, ça me permettait dans ma tête de me lancer. Mais après, le fait de courir, eh bien, tu vas suffisamment lentement pour découvrir les choses et suffisamment vite pour apprécier également. C'est vraiment un mix des deux. Et j'ai pas perdu une seule miette de tout ce qu'il y avait. Quand il y avait les lacs de sel qui étaient de couleur rose, mais tu cours et en fait t'as pas la tête en train de regarder la route, t'as la tête qui est tournée sur la gauche en train de regarder les lacs qui étaient là, tu fais oh, c'est trop beau, et tu cours et tu observes tout ça, tu observes la faune et la flore. Les gens que je croisais en voiture ou en véhicule me disaient mais il y a rien dans le désert, franchement il y a rien de plus chiant que de traverser de la côte est à la côte ouest. Je dis mais oui, parce que vous roulez trop vite et vous n'avez pas le temps d'observer les choses. Je vois des serpents tous les jours, je vois des gros lézards partout, je vois des blue tongues, c'est des petits lézards qui font à peu près 30 cm, qui ont une langue bleue. On voit une vie, une faune, une flore très très importante, avec une flore que je trouvais très passionnante, notamment avec les ghost gum trees, donc des eucalyptus qui ont une couleur de chair au niveau du tronc qui est complètement blanche. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant et j'aimais en fait tous les matins me réveiller et observer cette nature qui était, j'allais dire, presque intacte et sans trop contact d'humain. C'était ça le côté enivrant de l'aventure, qui était bien différent du Mékong et du Tour de France à la nage. Mais c'est vrai que c'était un côté enivrant de se dire « Waouh, c'est l'impression que c'est à moi, c'est juste pour moi ». Et tous les jours, tu découvrais quelque chose de nouveau. J'ai eu un tout petit moment de lucidité au moment où j'étais vraiment dans le mal après 4 jours sans boire. Je me suis retrouvé sur une creek asséchée. Il y avait des ghost gum trees qui étaient positionnés sur la creek. Et je me suis dit, si il y a des ghost gum trees, c'est que forcément, en dessous, il doit y avoir de l'eau. Et si c'est une creek asséchée, c'est que de temps en temps, ça doit se remplir d'eau à cet endroit lorsqu'il y a des précipitations. Donc je me suis arrêté, j'ai commencé à creuser. Et c'est là où on se pose la question, est-ce que je fais pas une connerie? Parce que je suis en train de m'épuiser à creuser, mais je sais pas si l'eau allait à 20, 30, 1 mètre, 2 mètres de fond. Et j'ai creusé pendant 5-10 minutes et j'ai arrêté parce que même le sable ne venait même pas légèrement humide, était que sec. Et j'ai dit, c'est peut-être une belle connerie. J'ai posé ma caméra sur un petit trépied. J'ai pris une photo et je ne savais même pas si cette photo, j'allais la voir un jour. Hein. Parce que pour moi, le fait de prendre cette photo en étant souriant, et je me suis dit le jour, si je voyais laisser la vie que je crève là, eh bien les gens vont me retrouver, ils vont retrouver le cadavre et ils vont retrouver mon appareil photo. Et ils verront la dernière photo qui a été prise et ils verront un mec qui souriait et qui était surtout heureux d'être là et qui vivait son aventure pleinement. Et que même si eh bien, ça a été... vraiment au-delà de ses limites, eh bien, il a vécu son truc à fond, la caisse. Et il ne faut surtout pas, j'allais dire, pleurer sur lui parce qu'il aura vécu ce qu'il voulait. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, bah, si je prends cette photo et que je m'en sors vivant, eh bien, quand je regarderai la photo, j'aurai un putain de sourire, me dire quand même celle-là, c'était limite, on n'était quand même pas loin. Et donc je me suis remis debout et j'ai fait, il n'y a qu'un endroit où il y a un truc qui est soit à peu près liquide, consommable, je sais même pas si le mot est de tel, mais voilà, je me suis dit, voilà, on va faire ça. Donc j'ai pissé dans une bouteille et j'ai secoué le truc qui était de la couleur de l'intérieur de ton sac, orange, rouge, bien dégueulasse, avec une odeur infâme. Et je me suis dit, c'est pas possible que j'en sois arrivé là. J'ai dû faire une erreur dans toute ma préparation. Et en fait, il n'y avait pas d'erreur, c'est juste que il n'y avait pas de point d'eau à cet endroit, il n'y avait pas de moyen de trouver de l'eau. Et donc, tu te retrouves à devoir consommer ton urine et c'est là où... ça m'a vraiment bouleversé de me dire, voilà, si ça m'a affecté sur ma traversée des gens, c'est toute leur vie qui doivent se battre pour avoir un accès à l'eau. Et ça a été le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, bordel, mais tu serais quand même pas mieux tranquillement à la maison. Mais comme je le dis très régulièrement à beaucoup de personnes, quand on fait un voyage, et généralement, même qu'il soit seul ou accompagné, alors forcément accompagné, il y a plus de liens, le mot partage encore plus fort, mais on se souvient des bons moments et on en sourit. Et généralement, des mauvais moments, on en rigole, parce que bah, le bon moment a toujours été quelque chose d'important, parce que c'est ce qui permet de créer l'histoire. Donc, quand des gens partent à l'aventure ou ils veulent partir en voyage en Amérique latine, en Afrique, en Asie, peu importe, ils me disent « bon, bah, je m'en vais » et je leur réponds simplement « eh bien, je te souhaite que des emmerdes ». Quand tu es en train de monter un projet, et ce n'est pas uniquement sur de la course à pied, hein, mais quand tu montes un projet, il y a l'énergie déployée pour le faire et ce que ça va te rapporter, la récompense. Si l'énergie déployée est beaucoup plus importante que la récompense, à mon avis, tu vas dans le mauvais sens. Et en fait, dans la vie, il y a deux choses que tu ne pourras jamais gagner et avoir dans l'autre sens. C'est l'énergie et le temps que tu y consacres. Je rentrais de Kaltukajala et je repartais sur Yulara, qui est une petite ville touristique en plein milieu de l'Australie, à côté de Uluru Kalachuta. Et en fait, je prends la dernière portion et je tourne sur la gauche pour retourner sur Yulara. Yulara est à une dizaine de kilomètres. Il fait nuit noire. Je suis dans le parc national d'Uluru Kalachuta et j'ai pas le droit d'être là. Je suis tout seul. Il y a que moi. Et je me souviens de sa voiture qui passe, avec un gros 4x4 blanc qui s'arrête. Et là, je vois les feux arrière et ça recule. Et je dis, eh merde, oh, c'est pas possible. C'est les mecs qui vont venir me dégager d'ici. J'ai pas le droit d'être là. Et elle recule, elle s'arrête et elle est à peu près à 25 mètres de moi. Et elle ouvre la porte et j'entends un
Rémi Camus.
Et là, c'est ouf, tu vois. Faut vraiment planter le décor. T'es dans le désert. Donc je fais presque un tour sur moi-même, genre Yes? It's me. Et tu dis merde, il y a quand même quelqu'un dans le désert qui crie ton nom et tu connais personne, tu vois. Et elle s'approche de moi, tu vois les phares de la lumière qui éclairent la route, qui éclairent le bas de mes jambes et tu la vois avancer tout doucement et elle fait
Angela.
Et on se prend dans les bras, je fais ça fait des jours et des jours qu'on me parle de toi et je sais que c'est la personne qui a réussi à ce que je puisse entrer dans la communauté de Mutijulu. Et c'est juste extraordinaire de la prendre dans les bras. Et je m'apprêtais toujours de sa phrase. Et elle me dit
« You smell strong. »
Tu es dans une île continent qui fait 14 fois la taille de la France. On part sur un climat continental méditerranéen. Après, tu attaques sur un climat semi-désertique et tu arrives sur le top end, Darwin, où tu as ces deux saisons, un climat sec et un climat très humide. Et tu n'imagines pas, en fait, quand tu dis humide, tu dis bah, « il pleut un peu ». Non, non, c'est humide, vous allez voir, il pleut. Et en fait, je suis arrivé à... J'étais à peut-être quelques cinquantaines de kilomètres de Catherine et je m'arrête sur une petite aire de repos et il pleuvait, c'était pas possible quoi. Alors que un mois avant c'était le désert et c'était très aride. Et un monsieur vient vers moi et me dit qu'est-ce que tu fais toi? Je dis moi je cours et je m'en vais à Darwin, je finis mon aventure. Et alors je t'annonce qu'il y a un ouragan qui vient de s'abattre sur les côtes de Darwin et qui descend sur Catherine. Et pour moi je dis ok. Bah oui, c'est bien. De manière, j'ai pas le choix. Hein. Moi, je continue. La route, elle est tout droit et je vais pas m'arrêter à 400 km de l'arrivée parce qu'il y a un soi-disant ouragan. Sauf que je savais pas ce que c'était, moi, courir sous un ouragan. Et quand tu te retrouves à avoir... des fois un mètre de flotte dans le ravin sur le côté, ou quand la creek asséchée qui passe sous le pont se trouve normalement à 15 mètres sous le pont et tu vois le pont qui est arraché parce que l'ouragan est extrêmement violent, la liaison entre Catherine et Darwin de la ligne de chemin de fer a été arrachée par les précipitations. Donc tu te rends compte qu'on n'est pas dans un film, c'est la vie, c'est vrai, tu es en train de le vivre vraiment. Et j'avais juste la trouille que la remorque que mon père m'avait construite, que ça soit un sous-marin, je fais le but c'est que je cours, c'est pas que je nage. Et pas mal de personnes se sont arrêtées pour me demander mais arrête, là c'est extrêmement dangereux, monte avec nous, on t'emmène, on te dépose plus loin. Et j'ai toujours refusé, je fais non, j'en ai pas bavé jusque là pour arrêter à 300 km de l'arrivée. Et donc j'ai fini mon aventure, j'ai réussi à passer Catherine et à gagner tout doucement Darwin. Et l'ouragan s'est estompé en arrivant à environ 50 km de Darwin. Et tu retrouves une végétation très fournie, très chargée, avec plein d'animaux, avec des petits poissons qui sont dans les creeks, alors que normalement il n'y a pas âme qui vive. Tu te dis mais ça vient d'où tout ça ? Là, c'est extraordinaire, tu vois que la nature est bien faite. Et ça a été un très gros contraste pour moi et une grosse problématique pour ma maman, qui a été un gros soulagement quand je suis arrivé à Darwin, parce qu'elle qui m'appelait tous les 3-4 jours pour me dire «
Est-ce que ça va ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu gères ?»
Eh bien, le dernier appel qu'elle a eu de moi, c'était 6 jours avant d'arriver à Darwin. J'étais sous un hangar parce que j'arrivais pas à m'abriter. Il y avait des vents violents et je devais tenir ma remorque pour pas qu'elle s'envole. Et je me suis mis sous un hangar avec des tôles qui bougeaient dans tous les sens. Je vais essayer de passer la nuit ici, on verra bien. Et j'ai pris mon téléphone satellite, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit
« Je me suis arrêté pour la journée, je vais passer la nuit ici. »
Et ma maman, qui était pas forcément au courant de tout ce qui se passait, mais qui regardait la chaîne météo un peu trop souvent, me dit
« Rémi, aux informations, il parle qu'il y a un ouragan qui est en train de s'abattre sur les côtes de Darwin, t'es au courant ?»
Et je lui dis
« Oui maman, je sais, il est au-dessus de ma tête en ce moment même. »
Et ça a coupé à ce moment-là. Il y avait 6 jours. Et j'ai essayé de la recontacter pour lui dire « t'inquiète pas ». Et j'ai jamais réussi à avoir un signal pendant 6 jours. Donc j'imagine dans sa tête ce que ça devait être comme calvaire de se dire « bordel, il est où ? Est-ce qu'il est vivant ?» Et c'est la première personne que j'ai contactée lorsque je suis arrivé à Darwin, devant la State Library, c'est ce que je voulais. Et je suis arrivé sans... tu vois, c'est pas la course... c'est pas l'UTMB où t'as toutes les personnes qui sont là pour t'applaudir. Là, t'arrives et il y a personne, t'es tout seul. T'arrives devant la State Library et puis c'est un échange qui est un peu particulier. Parce que tu regardes la bibliothèque sur laquelle tu voulais arriver. C'est ce que je voulais arriver devant la bibliothèque et tu la regardes. Et en fait, tu échanges avec elle dans ta tête, te dire « je suis devant toi, j'ai fait 5400 km et je suis arrivé en courant devant toi ». Il y a plein de choses qui passent, mais la première chose, c'est juste, je suis super heureux de l'avoir fait. C'est déjà fini, malheureusement. L'aventure est finie et c'est même triste de se dire, faut tourner la page maintenant. Il y a la suite, il faut dérouler la suite. Et après, on revient très rapidement à la réalité de se dire, vite, il faut appeler quelqu'un. Et là, il fallait que j'appelle ma maman très rapidement pour lui dire, maman, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et j'ai appelé avec le téléphone satellite. Et je crois qu'il y a eu une tonalité. Ça a fait un tut. Elle a décroché tout de suite. Il devait être 3h du matin en France. Et j'avais l'impression qu'elle était réveillée, qu'elle ne bougeait pas, qu'elle avait téléphone sur l'oreille. Et je lui dis, maman, je viens d'arriver. Je suis à Darwin. Je suis en vie. Tout va très bien. Et elle m'a dit,
je suis heureuse. Ça va. Profite. Je te laisse. Je dors.
Et ça s'est terminé comme ça. Elle m'a appris l'humilité, elle m'a permis de prendre conscience que l'être humain est capable de faire de belles choses quand on s'en donne les moyens, quand on se pousse un petit peu dans notre retranchement, on arrive à faire de belles choses. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient différemment, notamment les aborigènes, avec un rapport à la terre, un rapport au vivant qui était très différent d'une autre. Ça m'a permis de prendre conscience de l'environnement dans lequel j'évoluais, de me dire la nature est belle, mais elle est très fragile. Et ça m'a permis de me rendre compte aussi de l'amour des gens qui te portent et qui te donnent sur ce genre d'aventure. J'ai reçu de l'aide, je ne sais pas combien de centaines de personnes qui m'ont tendu la main juste à un moment donné pour me donner à boire, à manger, à des moments où je ne m'y attendais pas du tout. Et même eux, ils ne savaient même pas que leur petit geste anodin, qui était ridicule pour eux, me mettait du baume au cœur et plein d'étoiles dans les yeux. Et je pense que c'est tout ça qui m'a permis de me rendre compte que l'humanité était belle et que voilà, il y avait de belles aventures à créer, à co-créer avec plein de personnes.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.